Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Et si la sainteté n'était pas d'abord une performance, mais un élan simple, confiant, presque audacieux vers Dieu. À 26 ans, une jeune carmélite écrivait qu'elle s'élancerait vers lui comme une petite fusée. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Élisabeth de la Trinité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Vivante Église. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une figure carmélitaine, discrète, mais d'une profondeur théologique et d'une intensité intérieure impressionnante. Sainte Élisabeth de la Trinité, carmélite de Dijon, morte à 26 ans, canonisée en 2016, a laissé une prière devenue célèbre « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Derrière ces mots, il y a une expérience bouleversante, la découverte que Dieu n'est pas loin, mais qu'il habite en nous. Pour nous accompagner, je suis en ligne avec le père et frère Jean-Thomas de Beauregard, religieux dominicain au couvent de Bordeaux, docteur en théologie, directeur du Studium de philosophie. Il conjugue l'enseignement, la prédication et l'accompagnement des jeunes comme aumônier de lycéens et d'étudiants. Auteur d'ouvrages spirituels remarqués tels que « La spiritualité de la bûche » et « Hardy les doux », il met aujourd'hui sa profondeur théologique et son expérience pastorale au service de cette jeune carmélite, Sainte Élisabeth de la Trinité, dans son livre paru aux éditions du Cerf, « Je m'élancerai comme une petite fusée, itinéraire vers Dieu ». Avec Élisabeth de la Trinité, bonjour frère Jean-Thomas de Beauregard et merci d'être avec nous en ligne.
Bonjour Nathalie.
Alors, qui était vraiment Élisabeth de la Trinité ?
Alors, vous l'avez dit, c'est une jeune fille de Dijon, donc en Bourgogne. On est à la toute fin du 19e, début du 20e siècle. Elle est la fille d'un officier, Monsieur Catez, qui va mourir assez jeune et d'ailleurs mourir dans ses bras à elle, de petite fille. Elle devait avoir 8 ans, je crois, au moment où il meurt de crise cardiaque dans ses bras. Elle grandit auprès de sa mère et de sa petite sœur, sa mère qui était d'ailleurs assez familière du Carmel. Le Carmel de Dijon était à quelques minutes à pied de la maison familiale. Et donc elle grandit dans une atmosphère pieuse. En même temps, elle a une jeunesse tout à fait comme les filles de son âge et de son milieu. D'ailleurs, alors peut-être sa particularité, c'est qu'elle est une musicienne de talent. Elle va remporter des prix au conservatoire en piano. Mais en dehors de ça, et d'une vie de prière qui très tôt malgré tout est d'une profondeur et d'une intensité peu commune pour une jeune fille de son âge, mais pour le reste, rien qui ne la singularise, si ce n'est ce désir progressivement plus profond d'entrer au Carmel le plus tôt possible, désir qui sera dans un premier temps contrarié du fait que sa mère se retrouve veuve et par ailleurs malade et qu'il faut bien s'occuper et de la mère et de la petite sœur, mais qui finira par être exaucé pour entrer au Carmel à 21 ans. Elle va y vivre une vie de prière toute discrète, sans d'ailleurs de signes extraordinaires ou de grâces sensibles un petit peu spectaculaires comme on peut les voir chez tel ou tel autre mystique. Et puis elle va mourir relativement jeune, vous l'avez dit, à 26 ans, d'une maladie assez terrible, la maladie d'Edison, qui grosso modo finit par lui bouffer l'estomac de manière assez terrible et avec des douleurs violentes. Tout au long de ce chemin-là, elle va laisser un ray de lumière qui ne va pas laisser ses sœurs totalement indifférentes. Et ce sont ses sœurs qui vont contribuer à populariser son parcours et sa personnalité assez vite après sa mort.
Alors, frère Jean-Thomas de Beauregard, vous êtes auteur de cet ouvrage paru récemment. Je m'élancerai comme une petite fusée. Je vous ai présenté comme religieux dominicain. Sainte Élisabeth de la Trinité est une carmélite. Pourquoi vous êtes-vous attaché à une carmélite, hein, frère Jean-Thomas de Beauregard, vous dominicain? Racontez-nous un peu votre histoire. Hein.
Alors d'abord, il y a un lien assez historique entre les carmélites et les dominicains. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila avait choisi expressément un dominicain, un théologien assez connu de son époque qui s'appelait Domingo Báñez, pour être son confesseur et son accompagnateur. Elle disait qu'il fallait avoir un théologien un peu sûr pour vérifier la sûreté justement de ses intuitions mystiques. Donc il y a ce lien-là historique, et puis qui, dans le cas d'Élisabeth de la Trinité, s'est manifesté par la présence de Dominicains un peu à tous les moments de son parcours. D'abord, c'est un Dominicain, le père Valet, qui était un prédicateur célèbre. Qui était dans le Carmel dans le couvent des Dominicains de Dijon, qui était à 300 mètres du Carmel de Dijon, et qui venait prêcher des retraites chez elle, et qui l'a beaucoup aidé à mettre des mots sur son expérience, et notamment sur ce qui est le cœur de son expérience à elle, à savoir l'inhabitation trinitaire, c'est-à-dire le fait que la Trinité vient habiter l'âme des baptisés, habiter réellement l'âme des baptisés. Donc il y a d'abord ce père Valet, qui a une grande importance dans sa vie, qu'elle va beaucoup voir en parloir, avec lequel elle va correspondre. Et puis, il y a un dominicain qui va prêcher une retraite chez elle, pardon, le père Fage, et c'est au cours de cette retraite, à la fin de cette retraite, qu'elle va écrire la fameuse prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Et donc, il y a ce dominicain-là. Et puis, il y a un troisième dominicain, on pourrait en voir d'autres, mais très important, qui est le père Philippon. Et le père Philippon, c'était un dominicain de la province de Toulouse, donc de ma province, qui enseignait à Saint-Maximin, qui a été au Concile Vatican II comme expert au Concile. Et lors de ses études de théologie, le père Philippon croise, si je puis dire, les écrits d'Élisabeth de la Trinité qui commençaient à circuler. C'était pas tellement longtemps après sa mort, et il va se passionner pour cela. Et ça va même être le sujet de sa thèse sur l'inhabitation trinitaire, justement. Et il va écrire des livres qui vont connaître un succès incroyable, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, à une époque où les gens lisent encore beaucoup, qui vont vraiment être décisifs dans la popularité d'Élisabeth de la Trinité. On pourrait dire, et c'est pas juste le dominicain qui le dit, c'est la plupart des spécialistes d'Élisabeth de la Trinité le disent, que la propagation des écrits et de la figure d'Élisabeth doivent énormément au père Philippon.
Alors,
Et puis, en fait, c'est grâce à cela que moi-même, jeune dominicain, notamment au noviciat, je suis tombé sur les écrits d'abord du père Philippon, puis qui m'ont fait ensuite entrer dans les écrits d'Élisabeth elle-même, et qui ont fait que je suis tombé, comme vous le disiez, quasi amoureux d'Élisabeth de la Trinité. Parce que il y a cette affinité entre ses écrits et peut-être la manière dominicaine de percevoir les choses, et notamment avec une spiritualité qui se veut objective et enracinée dans la théologie la plus sûre, tout en étant son expérience à elle. Donc c'est ce mélange de tout cela qui a créé ce lien entre les Dominicains et Élisabeth en général, et Élisabeth et moi-même en particulier.
Élisabeth de la Trinité, canonisée l'année de la Miséricorde, un 16 octobre 2016, a eu de vraies correspondances avec des prêtres, sa mère, sa sœur, ses cousines. Cette correspondance, on peut la retrouver, on peut la lire. En parlant d'Élisabeth, on peut inviter aussi les auditeurs à découvrir cette figure du XXe siècle, une âme de prière, une âme de silence. Que vient-elle chercher au Carmel, derrière la clôture, frère Jean-Thomas de Beauregard?
Eh bien, elle vient justement chercher le silence et la possibilité d'approfondir sa vie de contemplation. Parce que le désir du silence et d'une vie de contemplation, elle l'a bien avant son entrée au Carmel. Et elle essaie d'ailleurs de vivre cela dans sa vie, j'allais dire civile, dans sa vie laïque. Et elle y parvient d'ailleurs en grande partie. Elle parle de la petite cellule de son cœur. C'est une expression qu'elle emprunte à une grande dominicaine qui est Sainte Catherine de Sienne, qui d'une certaine manière était tout indiquée pour lui donner cela, puisque Catherine de Sienne, on la représente souvent en habit de dominicaine, et on n'a pas tort, mais elle n'était pas dominicaine au sens où elle aurait été moniale. Elle était membre du tiers ordre dominicain, ce qui fait qu'elle vivait dans le monde. Et souvent en voyage, par monts et par veaux, avec un certain nombre d'activités. Et donc, Catherine de Sienne a tout un enseignement sur le fait que même dans le monde, on peut se façonner comme une petite cellule de notre cœur dans laquelle on peut se recueillir. Et ça, c'est quand même un enseignement très riche pour Élisabeth elle-même, mais pour tous ceux qui suivent Élisabeth, c'est de se dire, on n'a pas nécessairement besoin d'être carmélite pour pouvoir avoir une vraie vie d'oraison. Mais le fait est que malgré tout, quand on a soif de vie d'oraison, il est évident que le Carmel s'impose, ou en tout cas devient quelque chose d'extrêmement attirant pour être vraiment tout à Jésus, tout à la contemplation de la Trinité, et sans les distractions et le fracas du monde. Et c'est vraiment ça qu'Élisabeth vient chercher au Carmel, en sachant qu'encore une fois, elle avait déjà, depuis petite, via sa mère, un lien avec le Carmel, et en particulier le Carmel de Dijon, et que par ailleurs, et c'est assez surprenant, moi ça m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près à Élisabeth, que elle avait lu déjà la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'on est 2 ans après la mort de la petite Thérèse. Il y avait quelque chose d'assez ébouriffant à la manière dont les écrits de la petite Thérèse circulaient et pouvaient donner envie à une jeune fille qui n'était pas déjà au Carmel d'entrer au Carmel. Donc il y a cette figure de la petite Thérèse qui est comme une grande sœur pour Élisabeth et qui va contribuer à la pousser à entrer au Carmel.
Pourquoi reste-t-elle, puisque vous évoquez Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, pourquoi reste-t-elle moins connue encore à ce jour que Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, plus discrète? Qu'est-ce qui explique un peu cette vie plus cachée?
Alors, j'y vois plusieurs éléments. Bon, d'abord, il y a quelque chose de tout bête, c'est que je pense que et c'est normal, le grand public chrétien, voilà, s'attache à certaines figures et qui prennent beaucoup la place. Et bah, en l'occurrence, Thérèse de l'Enfant Jésus est une figure qui est parfaitement légitime pour occuper beaucoup de place. Thérèse de l'Enfant Jésus, je dirais qu'il y a deux choses qui ont fait qu'elle a peut-être pris plus de place qu'Élisabeth de la Trinité, même si ça a été progressif. Je pense qu'il y a le fait que chez Thérèse, il y a un vocabulaire très simple, assez imagé, presque enfantin à bien des égards. Alors, chez certains, ça peut faire fonction de repoussoir. Ça a longtemps été mon cas, même si maintenant j'aime beaucoup Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Mais il y a ce vocabulaire-là qui en tout cas fait que c'est très accessible pour beaucoup de gens et beaucoup de gens qui peut-être voilà peuvent être repoussés au contraire par des auteurs plus techniques ou plus compliqués. Là, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est très accessible. Et puis Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois que elle va être énormément rendue populaire par la Grande Guerre, où elle va être très priée par les poilus notamment, et elle va exaucer beaucoup de prières, et c'est ce qui fait que elle va être rendue très populaire. Et puis il va y avoir un certain nombre d'auteurs spirituels qui vont faire sa promotion, si je puis dire, et donc elle obtient très vite une position assez remarquable. Et puis sans doute aussi que Thérèse de l'Enfant Jésus est vraiment le docteur de la miséricorde et de la petite voix. Et que, à une époque où il y avait un christianisme qui était encore très façonné par une sorte d'ascétisme rigoureux, eh bien, ce côté très simple, très souriant de la petite Thérèse a sans doute aidé à sortir de ce genre de schéma et a été comme une bouffée d'air frais. Élisabeth de la Trinité, de ce point de vue-là, elle est tout à fait en consonance avec la petite Thérèse, mais il se trouve que c'est peut-être moins immédiatement facile d'accès parce qu'il n'y a pas ce vocabulaire un peu enfantin. Ça ne veut pas dire que c'est très compliqué, mais parce que ça reste tout à fait accessible. Mais il y a moins toute cette comment dire toute cette imagerie, vous savez, autour de la petite Thérèse, les pétales de rose, etc. Et donc il y a un coup d'entrée, si je puis dire, plus grand. Elle se mérite davantage, si je puis dire, Élisabeth de la Trinité. Il
Et
faut.
Élisabeth de la Trinité, permettez-moi, frère Jean-Thomas de Brogard, est-elle une sainte au fond, en vous écoutant, pour spécialistes, hein, ou alors pour chacun de nous, on parlait à l'instant de Thérèse de Lisieux, plus accessible peut-être pour un plus grand nombre, alors que Élisabeth de la Trinité, il faut quelque peu entrer dans cette inhabitation aussi de la Trinité et de son langage qui est particulier, où on rejoint aussi, où elle s'est inspirée, entre autres, des épîtres et puis de l'apôtre Saint Paul, un apôtre de feu, hein, car Élisabeth de la Trinité avait aussi son caractère, hein, une jeune femme passionnée, parfois colérique. Hein. On a peu parlé aussi de sa personnalité. Est-ce que vous pouvez, nous en dire un peu plus?
Alors oui, en effet. Alors je pense que je pense pas du tout que ce soit une sainte pour spécialiste, ni pour théologien, même si de fait souvent les théologiens l'aiment bien parce qu'elle aborde des thèmes qui leur sont chers et notamment effectivement tout ce qui a trait au mystère de la Trinité et à l'adoption filiale qui nous configure au Christ. Mais pour ce qui est de sa personnalité. C'est une personnalité de feu, en effet, elle le dit d'ailleurs d'elle-même. Elle est là aussi, peut-être par contraste avec la petite Thérèse, dont on sait, la petite Thérèse le dit elle-même, qu'elle avait un petit côté petite fille géniarde dans son enfance avant de devenir beaucoup plus affermie dans sa vie de foi. Dans le cas d'Élisabeth, dès le départ, c'est une jeune fille au caractère bien trempé, que ce soit sa mère, que ce soit ses professeurs, que ce soit les prêtres qui la préparent au sacrement, tous remarquent ce caractère extrêmement trempé, très volontaire, qui d'ailleurs revient assez régulièrement dans ses écrits, notamment dans sa grande prière à la Trinité, où revient avec une très grande récurrence la formule « je veux ». Je veux, et c'est tout à fait symptomatique, elle a une volonté très forte, non pas quelque chose qui serait de l'ordre d'une exigence capricieuse, mais d'un projet résolu, d'un dessein bien arrêté de suivre le Christ et de réaliser dans sa propre vie, avec la grâce de Dieu, ce que justement les épîtres de Paul et l'Évangile et les épîtres de Jean lui promettent, à savoir la vie en Dieu. Et donc ça, elle y croit fermement, elle y croit d'une manière radicale, et elle veut y parvenir, moyennant la grâce de Dieu. Alors si on ne regarde que l'aspect extrêmement volontaire, on peut croire à quelque chose d'un peu militaire et un peu dur. Je ne crois pas que ce soit le cas. Certes, elle a un père officier et ça joue sur son tempérament, je pense. Notamment, elle se plaint assez peu. Elle ne fait pas beaucoup étalage de ses atermoiements psychologiques ou de ses difficultés. Mais en revanche, elle attend tout de Dieu. Ça n'est pas purement une démarche volontariste. C'est vraiment, elle attend tout de la grâce, mais à son échelle, elle veut y collaborer par sa réponse et elle va l'obtenir.
En quoi son expérience rejoint-elle la grande tradition théologique de l'Église, frère Jean-Thomas?
Alors, il y a quelque chose de très important chez Élisabeth, c'est que elle a beaucoup lu. Non seulement les épîtres de Paul, Jean et toute la Bible, peut-être d'ailleurs davantage d'une certaine manière que Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a aussi beaucoup lu les auteurs du Carmel, en particulier Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Et via les prédications, elle avait une très bonne oreille en réalité, elle a une oreille de musicienne. Et
Oui.
donc, tout ce qu'elle entend en prédication, en retraite, et notamment via les dominicains qui viennent prêcher depuis leur couvent qui est juste à côté, elle l'entend, le retient, le prend en note dès que la prédication est terminée et l'assimile. Et ce qui fait que, sans probablement avoir jamais lu une seule ligne directement de saint Thomas d'Aquin, sans doute probablement pas non plus de sainte Catherine de Sienne directement, eh bien, en fait, elle les assimile de manière stupéfiante, simplement parce qu'elle a entendu des personnes qui, des prédicateurs qui, eux, les avaient lus et les avaient fréquentés et en étaient imprégnés. Et c'est ce qui fait que quand on connaît très bien, ou quand on connaît même ne serait-ce qu'un petit peu Thomas d'Aquin ou Catherine de Sienne, et puis qu'on connaît aussi Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, et qu'on lit Élisabeth de la Trinité, eh bien, on n'est absolument pas perdu. Et même on retrouve, formulé de manière plus simple et de manière différente, ce qu'il y a de plus génial et de plus profond dans, les plus grands auteurs de la tradition de l'Église. Et c'est sans doute ça d'ailleurs qui fait, on disait tout à l'heure qu'Élisabeth est souvent appréciée des théologiens, c'est qu'ils sont en terrain familier. Parce que vraiment, elle rejoint par ses mots et par son expérience ce qu'il y a de plus profond et de plus grand dans la tradition de l'Église. Et ça, sans entrer dans des choses extrêmement techniques, extrêmement pointues, extrêmement spéculatives, mais de manière toute simple, toute vraie. Et ça, c'est un prodige que souvent, nous autres théologiens, on a du mal à réaliser parce que on a tellement l'habitude d'aller dans des problèmes un petit peu compliqués qu'ensuite pour en rendre compte de manière simple, c'est difficile. Bien, Élisabeth nous fait ce cadeau de rendre très accessible des choses qui sont de soi un peu compliquées. Et ça, c'est quand même un grand cadeau qu'elle nous fait et que l'Esprit Saint nous fait à travers elle.
Alors, nous allons découvrir et nous découvrons aussi ce beau cadeau avec cette figure du XXe siècle, une carmélite entrée à l'âge de 21 ans au Carmel, la courte vie au Carmel, puisqu'elle meurt à l'âge de 26 ans. Vous avez écrit cet ouvrage. Je vous propose, frère Jean-Thomas de Beauregard, de rester bien sûr avec nous le temps d'une plage musicale. On vous retrouve juste après. À tout de suite.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de l'émission de Vivante Église, au micro et pour intervenant, c'est un frère dominicain que je reçois, un frère dominicain qui a consacré donc l'écriture d'un ouvrage à une carmélite, et c'est peu banal. Frère Jean-Thomas de Beauregard, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Eh oui.
Oui. Alors, votre livre reprend cette belle et grande prière. Alors, pour non pas les spécialistes, mais ceux qui ont déjà approché cette figure carmélitaine d'Élisabeth de la Trinité, connaissent cette prière célèbre « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Alors, pourquoi avoir fait le choix de structurer votre livre très précisément autour de cette prière, frère Jean-Thomas?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que vous le soulignez vous-même, c'est la porte d'accès la plus simple et la plus répandue pour entrer dans l'œuvre d'Élisabeth de la Trinité. Cette prière-là, elle a été extrêmement, extrêmement populaire. Je ne compte pas le nombre de conversations et de témoignages que j'ai pu avoir de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs. À qui on a enseigné cette prière dès leurs jeunes années et qui l'ont priée toute leur vie. Je me souviens en particulier d'un jésuite qui s'appelle le père Manaranche, qui était un très grand prédicateur qui a écrit pas mal de livres et qui est mort il y a quelques années maintenant, et que j'avais rencontré lorsque j'étais étudiant avant de devenir religieux. Et c'est lui qui m'avait parlé de cette prière-là. Et lui-même me disait avec émotion combien cette prière l'avait accompagné toute sa vie. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout singulier. Au contraire, c'est extrêmement répandu. Et puis, cette prière, elle a aussi un autre avantage, c'est que malgré tout, ça n'est pas rien, elle est citée par le catéchisme de l'Église catholique. Vous savez, le catéchisme de l'Église catholique qui est on pourrait dire cette somme de la foi chrétienne, cette synthèse et cette somme en même temps de la foi chrétienne qui avait été demandée par le pape Jean-Paul II, coordonnée par Joseph Ratzinger, qui n'était pas encore pape Benoît XVI, pour enseigner la foi aujourd'hui. Et le catéchisme de l'Église catholique cite cette prière-là. Donc je me suis dit que c'était un bon fil rouge. Et puis, il y a une dernière raison pour laquelle je le prends comme fil rouge, c'est que cette prière, elle a été rédigée au fur et à mesure par Élisabeth de la Trinité. C'est pas du tout le type de la prière style le mémorial de Pascal rédigé d'un seul trait dans une sorte d'extase ou de fulgurance. Non, c'est vraiment quelque chose de très mûri et dans lequel on trouve la plupart des grands thèmes spirituels qui sont chers à Élisabeth et qu'elle avait commencé à développer avant et qu'elle continue à développer après. De telle sorte qu'en prenant, en suivant pas à pas cette prière, eh bien, on peut raccrocher, si je puis dire, on peut raccrocher à chaque fois des écrits d'Élisabeth d'avant et d'après, qui viennent approfondir, éclairer ce qui est dit. Et donc, c'est un fil rouge. De toute façon, il fallait bien trouver un moyen de
C'est une porte d'entrée,
pédagogique
hein,
d'entrée
tout à
d'Élisabeth
fait.
de la Trinité, et celui-là s'est imposé assez vite pour cette raison-là.
Alors, puisqu'on en vient, vous évoquez cette si belle prière, ô mon Dieu, Trinité que j'aime, est-elle le sommet un peu et l'aboutissement du cheminement personnel, spirituel, humain, dans une vie ordinaire aussi, une vie de prière, de carmélite, d'un long mûrissement d'Élisabeth de la Trinité?
Alors, c'est l'aboutissement, oui et non, parce qu'elle a encore 2 ans à vivre au moment où elle l'écrit. De telle sorte il y a des inflexions dans la spiritualité d'Élisabeth qui ne sont pas encore tout à fait présentes dans cette prière. Mais en réalité, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, même ce qui va se développer après la rédaction de cette prière. Il y a déjà quand même des prémices dans la prière, notamment tout ce qui a trait à la souffrance et à la mort, parce que, évidemment, au moment où elle écrit cette prière, elle n'est pas encore malade, elle n'est pas encore aussi proche de la mort qu'elle sera évidemment à la fin. Donc à ce moment-là, d'une certaine manière, elle le dit parce qu'elle le sait de manière théorique, et ensuite elle va l'expérimenter en vrai, et ça va donner une beaucoup plus grande force à ce qu'elle n'exprimait que d'une manière théorique jusque-là. Donc c'est pour ça que oui, c'est un aboutissement d'un certain point de vue, mais elle a encore d'une certaine manière outre 2 années à vivre, des choses à vivre pour vérifier d'une certaine manière, expérimentalement, la vérité de ce qu'elle écrit là.
C'est une Élisabeth de la Trinité qui invite au recueillement, à un profond silence intérieur et puis à l'oubli de soi. Cela apparaît aussi dans cette prière. Aidez-moi à m'oublier entièrement. Que signifie cette parole qui peut apparaître aussi dans les écrits d'Élisabeth et sa correspondance?
Oui. Alors, aidez-moi à m'oublier entièrement, c'est quelque chose qu'elle dit en effet assez fréquemment, notamment lorsqu'elle médite le psaume 44, je crois. En fait, le but, c'est simplement de dire que pour pouvoir entrer dans une vie d'oraison et dans une vie d'union à Dieu, eh bien, à un moment, il faut pouvoir faire silence, et un silence qui est à la fois le silence extérieur, bien sûr, éviter les bruits, le fracas du monde, etc., mais un silence intérieur, et s'oublier soi-même, non pas au sens d'une sorte d'anéantissement complet de la personnalité, ce n'est pas vraiment ce qu'entend Élisabeth par là, mais au sens de être tellement tourné vers Dieu qu'on n'est plus préoccupé de soi. Et c'est davantage ça le sens que lui donne Élisabeth. Elle dit, il faut, comment dire, chasser tout ce qui en soi est une préoccupation, à la fois une préoccupation du monde, une préoccupation de mes petits problèmes à moi, etc. Il faut s'oublier pour être tournée entièrement vers Dieu. Et en l'occurrence, elle en fait une démarche volontaire, mais elle sait bien que, en réalité, il n'y a que Dieu qui peut chasser toutes ces préoccupations-là, et donc c'est à Dieu qu'elle demande de l'aider à s'oublier entièrement. Ce à quoi j'associe spontanément cela, c'est à ce passage de l'Évangile, vous le savez, où le Christ demande à Pierre de le rejoindre en marchant sur l'eau, et vous le savez, dès lors que Pierre cesse de regarder exclusivement le Christ pour se regarder lui-même et se demander un peu ce qu'il fait, ce qui est assez normal dans ce genre de circonstances, on le comprend quand même, et bien dès lors qu'il se regarde lui-même, au lieu de regarder le Christ, il se met à couler et à s'enfoncer progressivement dans l'eau. Tandis que s'il regarde et qu'il fixe le Christ, eh bien, il avance. Et c'est cela, s'oublier entièrement pour ne regarder que le Christ et avancer. Et ça me fait penser aussi, je l'écris dans le livre, à ce que le bon Dieu disait à Sainte Catherine de Sienne. Peut-être que on ne sait pas si Élisabeth de la Trinité a
Oui,
connu cette
oui.
anecdote-là, mais en tout cas, je trouve que c'est très consonant. Catherine de Sienne se demandait dans sa prière si elle était assez ceci, assez cela, trop ceci, trop cela. Est-ce qu'elle était assez sainte? Est-ce qu'elle aimait assez le bon Dieu, etc., etc. Et à un moment, le bon Dieu qui lui parlait à peu près comme je vous parle, lui dit, bon, maintenant, ça suffit. Alors, il ne dit pas exactement comme ça, mais il lui dit en revanche exactement ce que je vais vous dire là, à savoir, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Et c'est exactement ça, quand Élisabeth demande de s'oublier entièrement, c'est pour que, en s'occupant exclusivement de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui va s'occuper d'elle. Elle n'a pas besoin de s'occuper d'elle-même.
Alors, vous écrivez, ça c'est, on est presque à la fin de cette émission de Vivante Église. Pour ceux et celles qui découvrent peut-être cette figure carmélitaine du XXe siècle, il y a votre livre. Donc, chers auditeurs, découvrez Élisabeth de la Trinité, qui a été canonisée en 2016. Vous écrivez, ça c'est un point commun aussi d'Élisabeth de la Trinité avec Sainte Thérèse de Lisieux. On sait d'ailleurs par des indiscrétions de ses sœurs qu'Élisabeth a en commun avec Thérèse de Lisieux, d'avoir tellement souffert dans ses derniers mois de maladie qu'elle a été traversée par la tentation du suicide. Il n'y a pas là de quoi se scandaliser. Après tout, l'apôtre Paul lui-même, ce géant de la foi, ce combattant intrépide, laisse entendre qu'il a connu quelque chose d'analogue lorsqu'il écrit « Nous ne voulons pas, frères, vous le laisser ignorer. L'épreuve nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, à tel point que nous avions renoncé même à vivre. » Élisabeth de la Trinité, tout comme Thérèse de Lisieux, deux Carmélites, deux jeunes femmes ont été tentées dans la souffrance, dans l'épreuve, par le suicide. Ce qui les rendent aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui, presque ordinaires. Elles ont connu les tentations et la souffrance, frère Jean Thomas.
Oui, je crois que c'est très important. J'ai hésité un peu, évidemment, à écrire cela parce que c'est un sujet extrêmement sensible et que, évidemment, que parmi vos auditeurs, il y a sans doute des personnes qui, dans leur famille ou dans leurs amis, ont connu ce genre de drame ou même qui ont connu cette tentation à titre personnel. Mais c'est précisément parce que notre époque n'est que trop familière de cette réalité-là qu'est le suicide que je ne pouvais pas passer ça sous silence. Et je pense que ça nous rend Élisabeth proche, et Thérèse, et Saint Paul, parce que ça nous montre que le fait d'avoir une foi chrétienne ardente, d'avoir une foi chrétienne fervente, de vivre d'une très grande grâce et d'être des très grands saints, le cas échéant, ça n'exclut absolument pas ce genre de combat extrêmement dramatique. Alors dans le cas de Thérèse et d'Élisabeth, il faut le remettre dans le contexte, elles ont connu des maladies absolument épouvantables. Ça n'était pas du tout quelque chose qui pouvait être simplement alliée à une petite déprime passagère. Elles ont souffert abominablement. Et dans le cas de la petite Thérèse de surcroît, avec le diable qui lui essayait de lui semer le doute dans son esprit pour lui faire douter de l'existence même de Dieu et de la grâce. Dans le cas d'Élisabeth, c'est un peu moins présent cette dimension-là, mais là, c'est vraiment la souffrance la plus terrible. Et je crois que c'est important pour nos contemporains de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve-là, qu'ils n'ont pas à avoir honte d'éprouver ce genre de sentiment-là, pour peu que, en effet, comme Élisabeth, comme Thérèse, comme l'apôtre Paul, ils se précipitent dans les bras de Jésus pour évidemment ne pas succomber à cette tentation du désespoir. Mais le désespoir en lui-même, c'est une épreuve qui est malheureusement très répandue, malheureusement assez commune, mais justement parce qu'elle est répandue et commune, cette tentation-là, eh bien nous ne sommes pas seuls, nous avons le réconfort de la présence des saints et peut-être de ces saintes-là que sont Élisabeth et Thérèse en particulier, qui peuvent être nos compagnes dans cette épreuve, et c'est tellement important de ne pas être seul pour vivre cela. Et je vous dis ça, quand on est aumônier de lycéens, d'étudiants, et puis même quand on est prêtre d'une manière générale, on voit à quel point cette tentation-là, elle est récurrente, et jusque chez des personnes qui, par ailleurs, ont une vie extrêmement sainte. Donc, oui, c'est un sujet sensible. Oui, j'ai hésité à en parler. Et en même temps, je crois que le simple fait de pouvoir en parler et de dire que des grands saints ont triomphé de cette tentation-là, mais l'ont vécu jusqu'à l'extrême, ça me paraît plutôt une bonne chose que de pouvoir le dire, l'entendre.
Frère Jean-Thomas de Beauregard, merci pour votre intervention dans ce Vivante Église aujourd'hui. Un livre est paru et c'est la fin malheureusement de cette émission de Vivante Église. Je m'élancerai comme une petite fusée, c'est l'itinéraire vers Dieu avec Élisabeth de la Trinité qui est paru aux éditions du Cerf. Chers auditeurs, si vous souhaitez peut-être approfondir, découvrir aussi cette figure carmélitaine, femme de prière, derrière donc la clôture, eh bien, lisez ce bel ouvrage de frère Jean-Thomas de Beauregard, frère dominicain. Merci frère Jean-Thomas de Beauregard et au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.